OK, je voulais vous lever, on va lire Apocalypse, chapitre 19, les versets 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, ceux qui ont les notes, vous allez voir qu'à l'intérieur des notes, je mentionne le fait que que j'ai mis en annexe un document qui s'appelle « La connaissabilité de Dieu ». Vu que ça vient d'un livre et qu'on n'est pas supposé de copier des livres, d'en donner, mais là, vu que c'est juste une petite assemblée, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné un autre document qui a été joint aux notes. Mais c'est un document qui vient du pasteur Pascal Deneau de l'Église de Saint-Jérôme. Alors, celui-là, on peut l'utiliser. Mais celui-là, j'en ai plusieurs copies. Alors, ceux qui veulent en avoir un exemplaire après le culte, vous viendrez me voir. C'est tiré d'un manuel de théologie systématique. Et c'est le chapitre qui parle de la connaissabilité de Dieu. Vous allez voir le lien tantôt, parce que quand on va parler des noms du Christ, ça va être très intéressant. C'est pas long, c'est juste à peu près 5 pages, mais c'est très instructif concernant la notion du nom de Jésus-Christ. Très, très intéressant. Alors, je vous le dis, ceux qui ça les intéresse, j'en ai plusieurs copies. Mais je pense que pour juste les besoins d'une petite assemblée comme ça, je pense pas qu'il y en aurait de problème de droit d'auteur. Parce que dans le fond, c'est pas fait dans le but de copier un livre, c'est fait dans le but de vous partager une notion spirituelle. Alors, ceci étant dit, vous allez savoir pourquoi, si vous voyez tantôt que c'est marqué que vous allez avoir le document la connaissabilité de Dieu en joint, vous allez voir que le document que vous avez joint, c'est pas celui-là. Alors, c'est juste pour que vous saviez un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. OK. Alors, on va revivre. Parce que là, on avait fait la première partie la semaine dernière. On avait commencé à faire l'étude de ce passage-là, mais on n'avait pas terminé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reviser rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière de manière à reprendre là où on a laissé la dernière fois, pour qu'on voit le fil conducteur de tout cela. Alors, on avait mentionné dans la leçon précédente qu'on avait ici, dans ce passage-là, dans le chapitre 19, un contraste entre deux repas. Si dans les premiers versets, on avait les noces de l'agneau. Alors, les noces de l'agneau, ce sont les personnes qui appartiennent à Dieu, qui ont été envoyées, qui sont au ciel, et que là, ils participent à quelque chose où tout le monde est heureux, c'est la fête, c'est la réjouissance, c'est la prise de conscience qu'ils ont été libérés des griffes du malin, et c'est le repas du Seigneur. Ici, on assiste à un autre repas, et celui-là, on l'appelle vraiment pas grave, faut pas s'en faire avec ça. Le grand festin de Dieu. Verset 17. Le grand festin de Dieu, c'est... Alors, il y en a un qui est un festin de croyants. C'est un repas de croyants, les noces de l'agneau. Et celui-là, c'est le grand festin de Dieu. Alors, c'est deux repas, mais c'est un drôle de repas, celui-là. Dieu a demandé à tous les oiseaux de se rassembler pour venir manger la chair des rois, des chefs militaires, de tous les grands petits, esclaves, pas esclaves. Alors, vous voyez le contraste, hein? Il y en a un que c'est un repas somptueux, plein de joie, plein de réjouissance. L'autre, c'est quelque chose de... un peu... quand tu penses qu'une gang d'oiseaux qui se rassemblent pour manger... C'est moins réjouissant un petit peu. C'est intéressant de voir le contraste, de le noter quand on étudie le passage. On avait parlé aussi que dans le livre de l'Apocalypse, le thème du livre de l'Apocalypse, c'est le dévoilement de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi on appelle ça, en anglais, c'est « revelation », puis même certaines versions françaises vont traduire « la révélation de Jésus-Christ ». Qu'est-ce que c'est une révélation? Une révélation, c'est quelque chose qui est un peu voilé, et tu enlèves le voile, et tu fais voir quelque chose que les gens n'avaient pas nécessairement vu avant. C'est un passage qui s'harmonise parfaitement avec ce qui a été dit sur Jésus depuis le début du livre de l'Apocalypse. Alors, pour ceux qui suivent depuis le début des livres de l'Apocalypse, normalement, le livre de l'Apocalypse devrait nous amener à voir des aspects de la personne de Christ, de sa souveraineté qu'on parlait tantôt, qu'on peut avoir vu dans d'autres passages, mais que là, c'est beaucoup plus clair. Moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé le livre de l'étude de l'Apocalypse, je l'avais étudié à l'école biblique, un cours, 45 heures, bon, on apprend des choses, mais j'avoue que plonger dedans, l'étudier verset par verset, on est rendu, je pense, à 94e leçon. Là, j'ai étudié l'Apocalypse plus que jamais. Et je peux vous dire que la promesse qui est faite au début de l'Apocalypse, quand le Seigneur nous dit « Heureux celui qui lit et qui garde les choses qui sont écrites dans ce livre », c'est une promesse. Dieu fait une promesse qu'il va bénir ceux qui lisent, qui gardent. Ça veut dire, non seulement tu lis le texte, mais garder, ça veut dire comprendre ce que le Seigneur est en train de te dire et de le mettre en application dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est important. Alors, le dévoilement t'amène de la joie, t'amène du bonheur. Le Seigneur l'a promis. Quand le Seigneur fait des promesses, il n'est pas comme nous autres. Des fois, nous autres, ça arrive qu'on fait des promesses et on ne les tient pas. Mais ce n'est pas le cas du Seigneur. Autre chose qu'on apprend dans tout le livre de l'Apocalypse et dans ce passage-là en particulier, c'est vraiment qu'on apprend des choses sur les attributs de Dieu, les attributs de Christ. Parce que les attributs de Dieu et les attributs de Christ, c'est les mêmes. Parce qu'il est lui-même Dieu. Quand il est venu sur la terre, c'est Dieu incarné dans une chair d'homme. Donc, il a les mêmes caractéristiques. Si vous prenez un livre de théologie puis vous étudiez les attributs de Dieu, vous allez voir que celle du Père, celle du Fils, celle du Saint-Esprit sont les mêmes. C'est bien important de réaliser cela. Alors, quand on étudie l'Apocalypse, on découvre de mieux en mieux et de plus en plus quels sont les attributs de Christ. On se rend compte de plus en plus du côté qu'il est le roi des rois. On parlait tout à l'heure de souveraineté. Ben, quand le Seigneur est monté au ciel, quand il a monté à son ascension, là, il est au ciel, mais il n'est pas au ciel à dire oh, on va regarder ce qui se passe, puis on va le laisser aller, là. Il mène, il dirige tout ce qui se passe sur la terre au niveau des nations, au niveau des individus, au niveau de son Église en général et au niveau des individus qui composent son Église. Il est au contrôle. Il contrôle tous les aspects de nos vies. C'est intéressant de noter ça parce que plus on note ça, plus on se rend compte que les circonstances que Dieu permet dans nos vies, elles nous sont envoyées par lui et pour des raisons pour nous faire grandir, pour nous améliorer, pour nous purifier, pour nous sanctifier. C'est plein de sagesse, c'est plein d'amour, c'est plein de miséricorde. Mais nous, on a tellement de misère avec cette notion-là, que dès qu'il nous arrive une petite affaire, là, on se rébiche, on se dit, « Veux-tu bien me dire pourquoi tu m'as envoyé ça? » Il ne te le dira pas pourquoi il va te l'envoyer. Mais une chose qui est certaine, c'est que si tu l'as envoyé, c'est parce que c'est ça que tu avais besoin. Puis, dans le fond, il se sert de ces choses-là pour soit corriger des choses dans ta vie, ou soit pour te faire grandir, te rapprocher de lui, t'amener à ce que les Écritures nous disent, t'amener à la ressemblance de Christ. C'est un gros contrat, hein? Man, toi, tu te prends toi comme pécheur, puis le Seigneur, il dit, je vais te transformer, puis je vais t'amener lentement à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Il y a du travail, en tout cas. Dans mon cas, il y en a, je peux vous le dire. Puis je suis à peu près certain que dans votre cas, il doit en avoir aussi. Alors, le Seigneur, il fait des choses, mais il mène ta vie, mais ta vie est née de manière à donner un résultat. Autre chose qu'on avait parlé dans la première leçon, on avait parlé que dans le chapitre 4, ça nous disait qu'il y avait une porte d'ouverte dans le ciel. C'était significatif. Mais là, il ne nous dit pas qu'il y a une porte d'ouverte dans le ciel. On est rendu à la fin des temps. On est rendu au moment où Jésus revient et il règle ses comptes avec ce qui se passe à la terre, les méchants. Il règle ses comptes avec eux autres. Et là, ça ne dit pas qu'il y a une porte d'ouverte. Ça dit que le ciel est ouvert. Regardez, là, quand vous regardez, là, à 19, au verset 11, « Puis... » J'ai dit, puis je vis le ciel ouvert. Là, c'est plus rien qu'une porte, c'est le ciel au complet. Alors, il y a quelque chose d'important dit dans le premier verset. Donc, une porte, et maintenant, c'est le ciel ouvert. Il y a un autre mot que je vous avais parlé la semaine dernière, que je voudrais revenir un peu là-dessus, c'est important. Dans le grec, il y a un mot qui est utilisé pour le mot « voici ». Quand on dit, ici, dans le verset 11, ça dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici. Dans le grec, les anglophones ont traduit ça par un mot qui s'appelle behold. B-E-H-O-L-D. Behold, ça veut dire, arrête-toi, regarde, considère, réfléchis à ce que je suis en train de te dire. Mais ça, c'est dans le mot voici, mais il faut quelque part fouiller les. Quand on lit, ils disent le mot grec veut dire « behold ». Les Anglais l'ont traduit « behold ». Puis le mot « behold » traduit l'idée « arrête-toi ». Quelque chose d'important à dire. Là. C'est un peu comme quand on veut dire à quelqu'un « arrête, là, assis-toi, ouvre tes deux oreilles, regarde-moi dans les yeux, j'ai quelque chose d'important à te dire ». Bien, c'est ça qui est, c'est un peu l'idée, cette voici. Alors, on avait vu ça la semaine dernière. « Arrête, considère, réfléchis ». La première chose qu'on avait vue dans le verset 11, la partie où dit qu'il y avait un cheval blanc, une personne assise sur un cheval blanc, il faut regarder qu'est-ce que les Écritures enseignent sur la notion de cheval blanc et sur la notion historique qui est rattachée au cheval blanc. À l'époque des Romains, et même avant ça, là, c'est juste, je veux juste vous donner l'idée des Romains. Quand un général partait pour aller se battre contre une nouvelle nation qu'il voulait soumettre, quand il avait gagné, là, il revenait à Rome, puis il était tout dans ses beaux attraits, là, puis il était toujours assis sur un cheval blanc. Le cheval blanc, c'est une idée qui véhicule l'idée de la victoire. Il est un grand héros. Alors ici, pourquoi le Seigneur? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur Jésus lui-même va être assis sur un cheval blanc? La plupart des auteurs que j'ai consultés disent qu'ils croient que c'est un symbole pour montrer que Jésus est vainqueur avant même d'avoir engagé le combat. Il y a une idée extraordinaire ici là, qui est dit. Là. Il est assis sur un cheval blanc. Le combat n'a pas commencé encore avec la gang. Il n'a pas encore dit aux oiseaux. Là. Puis il est déjà sur un cheval blanc. Fait que si on remarque un peu le vocabulaire qui est utilisé, ça veut dire celui qui est assis sur le cheval blanc qui va amener l'action qui va se dérouler. Il est déjà vainqueur avant même de s'être battu. C'est spécial, hein? Et il va nous montrer dans cette section-là qu'il utilise deux méthodes. Il utilise l'épée, puis dans les Écritures, on dit souvent que l'épée, c'est la parole de Dieu. Alors, la manière que le Seigneur va agir pour agir sur les méchants, ça va être sa parole, et ça va être aussi la providence. On parlait tout à l'heure de la providence, bon, comment tu l'as appelé, en tout cas.
Des dieux-sidences. C'est pas des coïncidences, des
dieux-sidences. Des dieux-sidences, OK. En tout cas, c'est juste pour dire que le Seigneur va utiliser sa parole, et il va utiliser aussi le contrôle qu'il a sur les événements nationaux, internationaux. Il va contrôler ces choses-là de manière à arriver à ses fins. Et on avait vu aussi, on va passer rapidement là-dessus, on avait vu ses noms. Dans ce passage-là, de 11 à 21, il y a plusieurs noms qui sont mentionnés. Le premier, c'était le fidèle et le véritable dans le verset 11. Le nom de celui qui est assis sur le cheval blanc. Et le fidèle et le ça ne dit pas un fidèle et un véritable. Le fidèle. Donc, c'est l'article défini. Lui, il est fidèle. Si on regarde l'histoire de Jésus, la promesse qui était pour venir, tout ce qui concerne Jésus, il a toujours été fidèle à ce qu'il a dit. Il a toujours fait ses promesses. Il a toujours rempli ses promesses. Et le véritable, on parle de vérité. Jamais il a sorti un mensonge de la bouche de Dieu. Jamais il a sorti un mensonge de la bouche de Christ. Jamais il a sorti un mensonge de la bouche du Saint-Esprit. Le véritable. Aujourd'hui, on est littéralement submergé dans le mensonge. On est entouré. On est submergé, c'est le cas de le dire. C'est-tu intéressant de savoir que celui qui est notre boss, comme on pourrait dire, notre patron, il ne ment jamais? C'est rassurant, hein? Moi, ça me rassure. Absolument. Le deuxième nom qui est mentionné, c'est celui de parole de Dieu. On dit de Jésus que son nom, c'est la parole de Dieu. Et il faut se rappeler qu'est-ce que le mot logos dans l'original véhicule comme idée. Ça véhicule l'idée de la préexistence éternelle. Parce que ça dit, dans Jean 1:1, au commencement était... Et la parole. Le logos, là, on n'a pas d'idée de la puissance de Dieu, parce que la parole Dieu a créé à partir du néant. Tu dis, la terre, les planètes, pouf! Et la chose arrive. Imaginez la puissance qu'il y a à l'intérieur de ça. Le logos, c'est extraordinairement... Alors, ça présuppose... Ça indique sa préexistence éternelle. Ça indique aussi sa déité, sa divinité. Ça indique que celui qui a fait ça, il était Dieu. Il y a plein de passages où on peut parler de la divinité de Jésus. C'est lui qui a créé l'univers. Il a participé avec le Père et le Saint-Esprit à la création de l'univers. Toutes choses ont été faites en lui et par lui et pour lui. C'est assez extraordinaire. Donc, il était un agent de la création. Et la chose extraordinaire qu'on n'aura jamais fini de découvrir la beauté de ça, son incarnation. Dieu lui-même qui vient s'incarner dans un bébé, une chair de bébé, qui était la personne de Christ, et qui est venu faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et Jésus, les Écritures nous enseignent qu'il était le porteur de la révélation, qu'il était la vie, qu'il était la lumière, « Je suis la lumière, a dit le Seigneur. » Qu'il était la grâce, qu'il était la vérité, et qu'il était un reflet de la gloire de Dieu lui-même. C'est tellement beau, ces passages-là. Et un des troisièmes titres qu'il dit qu'il y a dans là-dedans, c'est dans le verset 16, où il dit qu'il est, son nom s'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On avait parlé de Proverbes, chapitre 2, verset 21. Après ça, on va commencer vraiment cette semaine. Ça dit, dans Proverbes 2, 21, « Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme une eau courante, et il l'incline à tout ce qu'il veut. » Alors, Dieu peut prendre le cœur de n'importe quel roi sur la terre. Et c'est un peu comme nous, quand on met la main en dessous de... Ça va dans le sens que nous, on veut, hein? Mais lui, il dit que c'est exactement la même chose avec le cœur des rois. Et quand il dit le Seigneur des seigneurs, ça veut dire que sur la terre, il y a des gens... Un seigneur, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Alors, il parle pas juste des rois. Il parle de tous ceux qui ont du pouvoir. Parce qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement des rois, mais ils ont du pouvoir. Il est en train de dire qu'il est le roi de tous les rois, puis qu'il est le Seigneur, avec un S majuscule, des seigneurs de la terre. On se rend-tu compte, là? Quel être humain peut dire qu'il est le roi de tous les rois? Il y en a qui l'ont dans l'histoire, là. Si vous prenez l'histoire de la papauté, certains papes ont prétendu à être le roi des rois. Mais en tout cas, on pourra en discuter longtemps. Mais le Seigneur Jésus, c'est lui qui est assis sur le cheval blanc, il est un véritable roi de tous les rois de la terre, et il est le véritable Seigneur de tous ceux qui ont du pouvoir sur la terre. C'est son nom. Intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Daniel, dans le livre de Daniel, où il y a le roi Nabucodonosor. Et le roi Nabucodonosor, il avait un pouvoir énorme, plus grand que n'importe quel premier ministre de quelque pays que ce soit aujourd'hui. C'était immense comme territoire. Et à un moment donné, il s'est pris pour un autre. Et le Seigneur l'a ramené à l'humilité. Il l'a amené à s'agir comme une bête, aller manger de l'herbe dans les champs. Puis il a dit, jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est moi le patron. Et il l'a fait pendant 7 ans, il est allé manger de l'herbe dans le champ. Quand la Bible dit qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il y a des passages, des écritures qui peuvent facilement nous le démontrer. OK. Il fallait le faire. Il fallait faire le petit résumé si on veut se remettre dans le contexte. Alors, on avait vu les noms. Et dans le verset 12, là, il y a quelque chose d'intéressant, de très, très intéressant, de dit. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai donné 3 noms. Là, il est en train d'en parler d'un 4e. Mais ce 4e-là, il y a quelque chose de spécial. Parce que ça dit, il avait un nom écrit que personne ne connaît sinon lui-même. C'est là que je fais le lien avec le document que vous allez avoir à la fin, en annexe. Et c'est là que je fais le lien aussi avec le texte que je vous ai dit, la connaissabilité de Dieu. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un nom que personne ne connaît. Très intéressant. Un petit peu. Alors, il y a une vérité vraiment glorieuse qui se détache de ce texte-là, c'est celle de l'incompréhensibilité, qu'on pourrait dire de manière absolue et exhaustive. Est-ce qu'on peut comprendre Dieu? La réponse est oui. Mais la réponse veut aussi nous dire que notre compréhension va toujours demeurer limitée, jamais exhaustive et jamais absolue. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il y a un nom que personne ne connaît sinon lui-même. Ça veut dire que sa nature profonde, il n'y a que lui, que Dieu le Père et que le Saint-Esprit qui peut vraiment saisir la signification de son nom, parce que là, on parle de son essence. Le grand théologien hollandais, Herman Bavinck, je sais bien que si François serait ici ce matin, il serait content d'entendre ça, parce qu'il aime beaucoup Herman Bavinck. C'est vrai que c'est tout un théologien. Voici ce qu'il décrit. Je vous la lis en anglais, c'est très court. Il parle de la capacité de l'homme à comprendre Dieu. Il dit, « God infinitely transcends our picture of Him, our ideas of Him, and our language of Him. He can be apprehended, but He cannot be comprehended. » Je vous l'ai traduit avec Google. Tu connais ça, on met ça dans Google. Ça, on fait Google, il nous traduit ça gratuitement. Je vous l'ai traduit en français. Dieu transcende infiniment notre image de lui. On a toute une image de Dieu. Hein? Elle est toujours fausse parce que, à quelque part, il est beaucoup plus grand que l'image qu'on s'en fait. Donc, Dieu transcende, ça veut dire être vraiment au-dessus de toute notre image de lui, nos idées de lui. Qu'on le veuille pas, avant qu'on soit chrétien et après qu'on est chrétien, on a des idées sur Dieu. Mais là, c'est en train de nous dire que Dieu transcende, donc il est infiniment au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir de lui. Notre image qu'on peut avoir de lui, nos idées qu'on peut avoir de lui, notre langage qu'on peut avoir de lui. Quand on parle de lui, on dit des choses, mais on est loin de la réalité. Parce que sa grandeur est tellement haute, tellement... C'est infini. Alors, c'est important ce qu'il dit là. Il dit, il peut être appréhendé, donc on peut avoir certaines notions de lui, le connaître jusqu'à un certain point, et jamais on ne le comprendra de façon absolue, de façon exhaustive. Ça, moi, c'est une idée qui me fascine littéralement. Vous allez aller au ciel, vous êtes des chrétiens, si vous êtes des véritables chrétiens, vous allez aller au ciel. Quand vous allez arriver au ciel, vous ne découvrirez pas pleinement et parfaitement et exhaustivement la personne de Dieu. Vous allez la découvrir pour l'éternité, c'est ça qui va être votre bonheur. Dieu est tellement grand là, que même quand on va être là, mais ça fait 1000 ans, tu vas le connaître un peu plus que quand tu es arrivé. Mais 1000 ans après, penses-tu que tu vas le connaître? Non, tu ne le connaîtras jamais exhaustivement. Ça nous donne vraiment une idée de comment Dieu est grand et toutes les notions qu'on a de lui sont vraiment misérables des fois. L'expression « il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même » est d'une richesse inouï. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il parle d'un nom de Christ que lui seul connaît. Quand on lit ça les premières fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je l'ai lu souvent ce passage-là, bien souvent. Mais maintenant, quand tu n'étudies pas à l'aide de personnes qui l'ont étudié, le texte en plus en profondeur, certaines choses que tu ne découvres pas. Et c'est vraiment dommage. Parce que des fois, c'est une richesse. Ça n'est un exemple. Alors, ce nom parle de sa déité ou de sa divinité, ce que son nom révèle. Ce nom parle de la nature divine profonde ou de son essence que lui seul peut comprendre. Là, on parle de l'essence de Dieu. Personne ne connaît l'essence de Dieu sinon l'Esprit de Dieu, sinon Dieu le Père, sinon Dieu le Fils. Les autres, on a une certaine appréhension, mais on ne peut pas aller en profondeur. Ce qui est intéressant ici, on va aller voir ce qu'un dictionnaire biblique. Si vous avez un dictionnaire biblique, si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'en acheter un. Il y en a des bons. Et celui-là que j'ai utilisé, c'est théologie, c'est nouveau dictionnaire biblique révisé et augmenté, édition Emmanuel, 1992, sous l'article nom. Je vous lis juste le petit passage. Il dit, à l'époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne ou la chose nommée. Le nom participe en quelque sorte à son essence qu'il a pour but de révéler. Hey, imaginez, le nom révèle qui la personne est, mais pourquoi nous, on peut pas vraiment, il dit que lui seul connaît, on peut pas le connaître ce nom-là, parce que pour le connaître, il faudrait être capable de comprendre l'essence de Dieu. Vu qu'on le comprendra jamais, c'est pour ça que ça se dit que lui seul connaît. Voyez-vous, la richesse, c'est juste un petit bout de passage. Il exprime la personnalité à un tel point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement, et en même temps avoir un certain sens, une certaine prise sur lui. Pourquoi on ne peut pas avoir une prise sur Dieu? C'est parce que tu peux. Il est vraiment trop grand pour toi. Tu ne peux pas avoir de prise sur lui. Il n'y a que lui, que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu le Père qui peut vraiment connaître vraiment qui Dieu est dans son essence à cause de ses perfections. Et ensuite, c'est là que je vous disais dans les notes que je vous conseille vraiment de le lire. C'est très intéressant. Concernant la capacité de l'homme, même régénéré, de comprendre la personne de Dieu. Je parle dans sa grandeur infinie. Et maintenant, il y avait des attributs aussi divins qui sont mentionnés dans le texte, des attributs qui sont importants. Par exemple, dans le verset 11b, la deuxième partie, ça nous dit que la personne qui est assise sur le cheval le juge. Donc, il vient, il revient à sa deuxième venue. Et là, c'est pas comme petit enfant dans une petite crèche, puis tout le monde sait pas. Là, ils vont saisir c'est qui Christ. Et là, il revient pas, il revient comme juge. Il va juger tout ce que les hommes ont fait de mal dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leurs omissions. Et il n'y a rien qui va leur échapper. Un regard de flamme. Un regard de flamme, ça veut dire que il a examiné toutes choses dans ta vie, dans la vie de tous les individus qui ne seront pas sauvés. Rien ne va leur échapper. On sait aujourd'hui comment les bandits s'en tirent avec des avocats, tout ce que tu voudras. Mais là, ils ne s'en tireront pas. Parce que tout ce qu'ils ont fait, il va être dévoilé. Donc, on dit de lui qu'il est le juge. Et on dit aussi qu'il est le juste. Donc, les juges humains, des fois... Si tu lui passes un petit chèque en dessous de la table, des fois, il change d'idée, hein? Mais pas lui. Il juge avec justice. C'est intéressant de savoir que c'est lui le conquérant qui vient régler les comptes. C'est intéressant. Donc, une autre chose qui est mentionnée sur qui il est, c'est dans le verset 12a, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Qu'est-ce que ça révèle? Quel aspect de la personne de Dieu que ça révèle, ça? L'omniscience. L'omniscience. Il n'y a rien qui peut lui échapper. Ce qui se passe en Chine, là, ce qui se passe au Japon, ce qui se passe en Allemagne, en France, là, name it, comme ils disent, il sait tout. Il sait tout sur tous les pays, sur tous les dirigeants de tous les pays, et il sait tout sur nous. Quand on pense qu'on peut faire des petites affaires par en dessous, puis qu'on n'en passe pas des petites vite, comme on dit au Seigneur. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu penses, il sait ce que tu dis, et lui, il a une mémoire. Mm-hmm. Moi, des fois, vous avez pu me dire quelque chose deux jours après. Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre jour? C'est pas le cas du Seigneur. Il juge avec justice. L'omniscience. Autre chose, on parle, juste parler de son omniscience, rappeler qu'est-ce que les Écritures nous disent on pourra prendre beaucoup de versets, mais celui-là, il parle de façon particulière. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Donc, intéressant. Et verset 12a, quand ça parle de la souveraineté. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Un diadème, c'est une couronne. Une couronne, c'est quelque chose qui t'est donné quand tu es victorieux sur quelque chose. Et ici, j'ai fait une liste des choses sur lesquelles Christ est victorieux. C'est pas des petites affaires. Il est victorieux, premièrement, il règne sur la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 53 à 55. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort! Où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Et il y aura plein de versets qui nous montrent que Jésus-Christ est victorieux sur la mort. Donc, une de ses couronnes, c'est qu'il est victorieux sur la mort. Un autre de ses couronnes, c'est qu'il est victorieux sur Satan et sur les anges déchus. Ça dit, Éphésiens, ayant dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a publiquement exposé en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Donc, Satan, pour lui, s'il dit à Satan, écoute, dégage, il dégage. Toute son armée également. Ensuite, ça dit qu'il règne sur les rois de la terre. Psaume 2, psaume très intéressant pour relier avec le passage qu'on étudie. Psaume 2, versets 2 à 9. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. On parle là de tous les méchants de la terre, on parle du retour du Seigneur. Il va y avoir probablement des milliards de personnes. Il dit, le Père lui dit au Fils, je t'ai oint roi sur ma montagne. Et là, il fait la prophétie dans les psaumes que c'est ça qui va arriver. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Le sceptre de fer, ça veut dire son autorité va être indiscutable. Et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Disons que tu rentres dans une pièce, puis c'est plein de vases de potier, puis tu rentres là avec une barre de fer, puis tu te mets à varger. Hein. D'après vous autres, ça va-tu résister? Bon, il est en train de dire que l'autorité qu'il a donnée à son roi, et dans le contexte, le roi, c'est Jésus-Christ, il dit qu'il va lui donner les nations, il va les paître, il va les diriger avec une main de fer, autrement dit, et il va les briser. Alors, autre couronne qu'il porte, c'est sur l'enfer. Il règne sur l'enfer. Apocalypse, chapitre 20, verset 13. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14, « Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. » Et là, on allonge la liste des couronnes, là, des diadèmes qui sont sur la terre. Est-ce que le Seigneur Jésus règne sur les planètes, les étoiles? Et ça, c'est extraordinaire. Hein? Il existe, pour une galaxie, 200 millions d'étoiles. Il y a des millions de galaxies. Alors, vous pensez le pouvoir que ça prend pour garder ça en place puis tout coordonner ça? Mais Jésus, il a ce pouvoir-là. C'est-tu intéressant de se rappeler ce personnage-là qui est notre maître? Puis il nous aime en plus. Donc, il règne sur les planètes et les étoiles. Il règne sur le monde végétal. On pourrait donner des exemples dans l'Ancien Testament où il peut faire pousser des récoltes, il peut faire mourir des récoltes, il peut faire pousser un ricin, comme on lit dans Jonas, et plein d'autres choses comme ça. Il règne sur le règne animal, sur les microbes, sur les vertébrés, les invertébrés. Il règne sur le règne minéral. Il règne sur l'Église. Et il règne sur la vie de tous les hommes, tant individuellement que collectivement. Les couronnes, il les a toutes. Très intéressant. Alors Dieu, Jésus, est insondable. Il est l'omnipotent. Imaginez-vous tous les hommes qui sont sur terre, qui sont méchants, lorsqu'il va revenir, il va être capable, ça dit, et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Ça prend-tu de la puissance pour rassembler ces gens-là? Quand lui dit, rassemblez-moi, prennent une énorme puissance. Et il y a quelque chose qui est dit dans le verset 13 aussi, qui est très intéressant. C'est la question, il était vêtu d'un manteau teint de sang. Le sang, c'était-tu le sien ou le sang de ses ennemis? Je pense que c'est le sang de ses ennemis. On va aller voir Ésaïe 63, versets 1 à 6. Qui est celui qui vient d'Édom en vêtements rouges, qui vient de Botsra avec des habits éclatants, portant la tête haute dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, tout puissant pour sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes habits comme ceux de l'homme qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans mon courroux, leur sang a rejailli sur mes habits, et j'ai souillé tous mes vêtements. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. J'ai regardé, il n'y avait point d'aide, je me suis étonné, et point de soutien. Alors mon bras m'a sauvé, et mon courroux m'a soutenu. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai enivrés dans mon courroux, et j'ai fait couler leur sang à terre, sur ta terre. Le pasteur Paulin Bédard, qui est le pasteur réformé de l'église de Saint-Georges, a fait une remarque par rapport à ce passage-là que j'ai trouvé intéressante. Alors, il dit, cette dernière image de la venue du juge et rédempteur nous atteste que le jour du jugement et le jour de la rédemption vont coïncider. Le jugement dernier des ennemis de Dieu sera terrible pour eux. Mais pour le peuple des rachetés qui ont souffert aux mains de ses ennemis, ce jour signifiera leur délivrance complète et entière. Ceux qui auront accueilli avec reconnaissance le sang de Jésus versé sur la croix entreront dans la plénitude des bénédictions que le sang de l'agneau nous procure. Par contre, ceux qui auront méprisé le sang de Jésus, leur propre sang coulera comme le jus de raisin qu'on foule dans un pressoir. Ce symbole signifie que le jugement exécuté par le cavalier sera terrible et complet. Alors, je pense qu'on en aura pour 3 semaines. Je pensais d'en avoir juste pour 2, mais je pense qu'on en aura pour 3. Pas plus grave. Fait qu'on va arrêter là aujourd'hui et on terminera tout cela la semaine prochaine.